Midi, pile poil, Denis Gravel qui est en place après une journée de congé très chaude. Est-ce que tu as profité de ta piscine? Est-ce que tes enfants qui trouvent que l'eau chez vous est beaucoup trop froide, l'eau de la piscine, est-ce qu'ils en ont profité hier?
En fait, la piscine est morte, hein?
Tu l'as tué?
Ouais, la piscine s'est déglinguée d'elle-même pendant la saison hivernale.
Ah!
Puis ma blonde, qui attendait impatiemment ce moment, a déclaré qu'elle n'était pas réparable. Ça n'a pas été un long débat. Fait que non, on est en train d'essayer de rafistoler le terrain, là, mais il n'y a plus de piscine. Puis hier, je te confirme que je me suis ennuyé de ma piscine à eau froide.
Moi, j'étais faire de la moto, puis là, tu sais que quand on fait de la moto, faut toujours faire de la moto de façon sécuritaire. Ça te prend des bonnes jeans, ça te prend un bon manteau, ça te prend un bon casque, ça te prend des bons gants. Ce qui fait en sorte que hier, je suis parti en culotte courte et en t-shirt.
Oui, ben oui.
Puis j'ai monté en bosse.
Très étonnant.
Je suis allé me promener en moto. Écoute, j'étais à hauteur de Saint-Isidore, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je suis sur ma moto à 119 km/h, puis je suis.
Pas rien, là.
J'avais rien. C'était l'enfer.
Il faisait tellement chaud. Lundi, mardi, les deux, en fait. Ça a-tu été plus chaud lundi? Je pense que oui, hein?
Oui, je pense que ça a été plus chaud lundi.
Ouais. Pas de beaucoup, là, mais... Hey, puis même la nuit, je veux dire, le plus bas que ça a descendu, c'est quoi? C'est 19-20 degrés?
Ouais.
La nuit entre les deux?
Ouais.
L'asile.
C'était l'enfer.
On a eu tout un spectacle à Saint-Jean, par exemple. On n'a pas eu à aller
sous plaines. L'orage?
Non. On l'a regardé sa galerie en famille. Là,
okay. C'est le fun.
Oui, puis j'en ai un qui a quand même assez peur là, du vent, des orages, puis de ces affaires-là. Fait qu'on est comme trois à triper, mais si on tripe trop, on fait peur aux plus jeunes. Fait que là, il faut comme tout se doser. Oui.
Moi, j'étais sur le boulevard à Val-Bélair, puis on est allé manger une crème à la glace chez Chocolat Favori. Puis je regardais vers le nord, plus au nord, même si j'étais au nord déjà à Val-Bélair, mais je trouvais que faisait noir un peu. Mm. Puis là, je voyais qu'il y avait comme des éclairs dans le secteur de Tewksbury. Il commençait à avoir des éclairs. Puis je dis à Isa, avec qui j'étais, je dis, je pense qu'on va commencer à revenir par la maison. On s'est jamais rendu. On a arrêté chez Lucien, 70 ans, qui était sur son perron. Puis il a dit, venez-vous-en, il y a une tempête! Hey, on était en dessous de son carpote. Je sais pas si ça s'appelle encore de même en 2025. Mais on était en dessous de son carpote, là. Puis on voyait ça tomber, puis c'était hallucinant. Il pleuvait des cordes.
C'est arrivé raide, hein? Je te dis que si j'avais été gestionnaire des plaines, probablement que, parce qu'eux autres voient ça arriver d'avance puis tout, mais moi, je serais arrivé sur scène, puis OK, là, malheureusement, il va falloir... Puis là, ça part, puis j'ai pas le temps de finir mon avertissement.
Mais c'est ce qui est arrivé, hein?
Ah, c'est l'asile.
Le gars qui fait... Moi, j'ai vu le gars faire l'annonce. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'audio, là, ben, la vidéo, ouais. Donc j'ai écouté. Et le gars était bien calme. « Bonjour, il y a un orage qui s'en vient. » Mais tu veux jamais être ce gars-là. C'est comme le gars qui a dit « L'orage pour les Foo Fighters. »
Ben oui.
Hey, il faut quitter. C'est comme le gars le plus détesté de l'histoire du moment. Là.
C'est Daniel Gélina qui était allé à l'époque.
C'est lui qui l'avait fait.
Oui, c'est lui qui l'avait fait, qui avait pris la responsabilité d'aller dire au festivalier que, justement, c'était terminé pour la soirée après trois tonnes, si je ne m'abuse. Puis tu sais, en même temps, maintenant, ils disent d'avance.
Pourri!
Quand Daniel Gélina est monté sa scène, on le voyait, le bordel était pogné.
Ouais.
Moi, c'est le gars qui vient caler la shot d'avance. Parce que maintenant, la shot est calée, il fait encore beau.
Ouais.
Mais. Ouais, il va falloir s'en aller, il n'y aura pas de choix à soir. Mais. Non, ben voyons. Puis là, cinq minutes plus tard, le bordel est pogné. Puis si tu t'es obstiné à rester ses plaines, ben là, tu fais littéralement partie de la soupe. Là.
Ouais. Puis tu peux pas dire aux gens, fuyez. Fuyez rapidement. Parce
ah ben
que
non,
tout le monde
ben
va s'entretuer. Fait faut que tu essaies d'être le plus calme c'est possible. Ça. Veuillez libérer les plaines d'Abraham calmement, s'il vous plaît, pendant le temps. Et le monde dit, t'es un de toute pourrie, ma chère! Fait que bref, nous autres, on était sous l'orage.
Ça a été un vrai.
Ça a été long. Fait que là, je suis revenu chez nous à la course, trempant de navette. Je suis revenu chercher Isabelle, qui était chez Lucien. Je suis revenu la chercher en boxeur. J'étais en boxeur dans mon char.
Yeah!
Ah oh, ouais. Elle m'a trouvé très sexy.
Ben bon, bonne Saint-Jean.
Oui. Hey, sinon, dans les dernières heures, quelle tristesse. Un des grands de la musique québécoise, Serge Fiori, qui est malheureusement décédé. Je me posais une question hier. Je pense qu'on est plusieurs à se l'avoir posé à la station. Est-ce que dans le retour, vous êtes les derniers à avoir accordé une entrevue à Serge Fiori?
Probablement. Probablement, on n'a pas trouvé encore quoi que ce soit qui contredise que la dernière entrevue que Fiori a livrée, c'est sur nos ondes dans le retour il y a 3 semaines et demie. Parce que cette semaine-là, il a livré quelques entrevues parce que normalement, il devait être sur scène pour la Saint-Jean-Baptiste, présenter le projet sur lequel il avait travaillé, là, de refaire un musicien parmi tant d'autres, mais en y intégrant des langues des 7 Premières Nations, donc des artistes de chacune des Premières Nations qui faisaient un bout de la toune. Et l'idée du projet, au départ, c'était qu'il monte sur scène. Il l'avait fait déjà en 2023. Je pense que c'est dans le secteur de Place-Diouville. Là, c'était annoncé d'avance et on avait eu de la misère à booker l'entrevue. Elle a changé de place 2-3 fois dans la semaine. Puis elle était tout le temps repoussée plus loin puis plus loin. Moi, à un moment donné, je pensais que je ne l'aurais pas, l'entrevue. Puis je me disais, ouais, ben Fiori est un peu comme le loup. Hein? Quand ça ne tente pas, ça ne tente pas. Puis tu es aussi bête de ne pas faire d'entrevue quand ça ne tente pas. Fait que je me dis, si on ne l'a pas plus grave que ça, puis on va passer à autre chose. Puis finalement, ah, ça va être là. Ça va être ce soir. Puis là, finalement, c'était 15h30, 16h, 16h30. Puis finalement, ça a été à 17h qu'on a eu Serge Fiori de peine et de misère. Puis tu le vois tout de suite quand quelqu'un est fatigué. Là.
Ouais.
Je l'ai vu tout de suite. J'ai dit, ouais, lui, il est fatigué. Pas sûr que ça y tente de faire une entrevue. Il y a du monde qui ont travaillé fort entre lui et moi pour faire en sorte qu'il y ait une entrevue. Je sais qu'Audrey avait travaillé fort de son bord. Puis je pense que de son bord aussi, il essayait de dire à Serge, tu sais, c'est un beau projet, il faut que tu en fasses la promotion, puis ainsi de suite. On a eu du fun, on a réussi à avoir du fun, on a réussi à rire, puis ça, ben, j'étais bien content. Une conversation de 18 minutes où il nous a révélé, justement, qu'il ne serait pas là, parce que son médecin lui recommandait de ne plus se présenter dans des foules en raison de sa fibrose pulmonaire. Je ne savais pas qu'il souffrait de fibrose pulmonaire. Je ne pense pas que ce soit sorti encore nécessairement dans les informations officiel non plus. Il disait que ça prendrait quasiment un scaphandre là, pour faire en sorte qu'il se présente dans une foule. Il avait de l'air fatigué, il avait de l'air magané. On s'est tous dit la même chose après l'entrevue. Tu tabarnouche, Serge a pris un coup de vieux.
Mais au-delà de tout ça, ce gars-là ne semblait pas triper à être sous les projecteurs. C'est un créateur, ouais. C'est un artiste. Ouais. J'ai lu un peu, toi tu dis que tu as lu sa biographie. J'ai lu ce matin, parce que je savais que j'allais t'en parler tantôt, de voir que dans les dernières années, là, il avait été en Californie pour étudier l'informatique puis la méditation.
Ben oui.
Puis après ça, il est revenu au Québec. C'est un gars qui faisait sa petite affaire chez eux. C'est un créateur, c'est un artiste. Puis, tu sais, Guillaume Lepage, il a demandé pendant des années et des années de se pointer à Tout le monde en parle. Il voulait Arjen savoir jusqu'à temps qu'il l'accepte.
Je pense que c'est le gars qui était bien dans un salon avec des chums, une guitare dans les mains, à faire de la musique. Je pense que c'est un gars qui était bien à créer de la musique. Mais le monstre qui est devenu Harmonium, parce que là, ça dépassait la musique, c'était rendu un culte là, quasiment, là, comme on n'en a pas eu des tonnes au Québec, je pense que ça le dépassait complètement. Puis un moment donné, il n'était même plus capable physiquement de monter sur un stage. Là. Je veux dire, il se vomissait le corps une demi-heure avant, puis il partait du stage, il était épuisé, il était en larmes.
Faisait de l'anxiété de foule, quoi.
Des crises d'anxiété. Ouais. Puis il était plus capable de les contrôler, ces crises-là. C'est pour ça que les dernières années... C'est pour ça qu'Harmonium n'a pas duré longtemps. Puis c'est pour ça que les dernières années ont été difficiles pour le groupe au complet. Tu sais, il y a des musiciens qui avaient commencé à quitter Harmonium, justement, parce que vivre au quotidien avec Serge Fiori dans ces conditions-là, c'était particulièrement difficile. C'est un gars qui a continué à créer, mais en faisant ses petites affaires de son bord. Son nom passait pas souvent, tu sais. Dès les années 80, il a fait un album, il a fait la chanson thème du festival Juste pour rire, pour les gens qui s'en souviennent. Moi, je fais ça juste pour rire. Ben oui, il y a eu ça. Après ça, il est reparti pendant un bout. Il est revenu en 2014 faire un album solo qui a permis à tout le monde de dire « Hey, ça fait du bien de le réentendre. Hein? On reconnaît le son de sa guitare, on reconnaît le son de sa voix, il a de l'air en forme. » Il a tapé 10 tounes en une semaine, puis après ça, il dit « L'inspiration est repartie, puis elle n'est pas revenue. Je l'ai faite, je suis content, mais je suis passé à autre chose. »
Mais quand tu dis « On entendait le son de sa guitare », ce gars-là n'a jamais pris de cours de guitare de sa vie. Il jouait au son. Là.
C'est un instinctif.
Ouais. Son père était dans le jazz, de ce
que
je comprends.
Oui, exact. Puis il a commencé, lui, à faire de la musique dans l'ensemble musical de son père. Les premières choses qu'il a écrites, de ce que je comprends, c'était pour une pièce de théâtre de Claude Meunier qui n'a jamais vu le jour. Parce que la formation d'Harmonium est reliée un peu à Claude Meunier, ça fait drôle à dire.
Ouais.
Michel Normandeau, qui est l'autre moitié du premier Harmonium, c'était le coloc à Claude Meunier. Puis Claude Meunier s'est fait une blonde, puis un moment donné, il a dit à son chum Normandeau, moi, je m'en vais vivre avec ma blonde, ciao, bye. Puis en même temps, Normandeau rencontre Fiori, les deux sont musiciens, fait que là, il dit, viens rester chez nous. Et c'est dans cet appartement-là qu'ils ont créé les premières mélodies d'harmonie.
Parce que Normandeau l'avait approché au départ pour faire de la musique pour la pièce de théâtre de Claude Meunier.
Exact,
voilà,
c'est ça.
Okay.
C'est ça. Et ironiquement, c'est une compagnie de disques ontarienne qui a été la première à découvrir Harmonium puis à les signer. Tu sais, quand on sait la force qu'Harmonium a eue au niveau politique, au niveau de l'indépendance du Québec, ça fait quand même drôle à dire. Tu sais, t'as un album sur une étiquette ontarienne, puis le troisième, c'est CBS Records qui le poussait pour essayer d'en faire un succès international. Puis, tu sais, tu vois que probablement tous ces aspects-là, Serge Fiori devait avoir ben de la misère avec ça, parce que l'œuvre d'Harmonium était créée en famille, était créée en commune. Je veux dire, on a l'impression que l'heptade, ça a été travaillé dans des studios. Non, il s'est installé, il s'est acheté une maison, puis tout le monde restait là. Les Séguins sont restés là à un moment donné. Valois restait là, Normandeau restait là aussi. Puis il était bien dans cette ambiance-là. Mais je pense que devant 20 000, devant 30 000, devant 40 000 personnes. Puis c'est comme quand tu développes une psychose, puis que tu t'éloignes de ce que t'aimes pas, je pense que revenir à un moment donné, c'est juste impossible. C'est peut-être pour ça que les pilotes de F1, dès qu'ils prennent un accident ou ils ont frôlé la mort, leur priorité, c'est de retourner dans le char. Parce qu'ils savent que s'ils attendent trop, probablement qu'ils seront pas capables. Ouais. Puis je lisais des entrevues de Fiori au début des années 2000 qui faisaient des parallèles entre... Il dit, c'est peut-être ça que Dédé Fortin a vécu. Tu sais, quand la machine vient trop grosse autour de toi, quand on te demande trop d'affaires, puis toi, tout ce que tu veux, c'est continuer de faire tes petites affaires, de faire tes créations comme tu as le goût de les faire, avec le temps que tu as le goût que ça prenne, tu sais. Parce que il y a des choses qu'on sait peut-être pas, puis qu'on comprend peut-être pas non plus. C'est une entrevue que j'ai faite avec Jay Scott, je pense, l'an passé, qui disait, j'ai demandé, tu sais, ça a-tu été long faire les tunes de ton nouvel album? Il dit, j'ai pas le choix, il sortait en octobre. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mon album sortait en octobre, fait qu'il fallait que je fasse les tunes, parce que l'album sort en octobre. Ma compagnie de disques m'a dit, il y a un album qui sort en octobre, fait qu'il faut que j'écrive de la musique.
Faut que tu produises.
Il y en a qui réagissent bien à une pression comme celle-là, à un encadrement comme celui-là, mais il y a des artistes, je pense, qui sont juste pas capables de dealer avec ça. Tu sais, l'inspiration, elle va venir quand elle va venir, puis si ça prend 2 ans et demi, ça va prendre 2 ans et demi, tu sais. J'ai toujours imaginé Serge Fiori comme étant ce genre de créature-là. Puis c'est dur encore aujourd'hui de séparer l'humain du mythe, parce qu'il s'est créé un mythe autour d'Harmonium. Il s'est créé un mythe aussi autour de Serge Fiori. T'sais. Pour bien du monde, Harmonium, c'était des poteux. Cette musique-là n'a pas été composée sur le pot.
De ce que je comprends, c'est que lui, il prenait plus de drogue.
Pantoute.
T'sais, ça alors, peut-être poche alors de te faire que, dire t'es un drogué, alors t'en prends pas. Là.
C'est ça. Puis je comprends que, je pense que c'est Michel Normandeau qui disait en entrevue, on a fait fumer le Québec au grand complet, alors que nous autres, Fiori, en prenait pas pantoute ou à peu près pas. C'est quand même ironique. Puis ce qu'on comprend et ce que j'ai compris, parce que j'ai eu deux conversations avec Serge Fiori, il y en a une qui a été faite dans le contexte d'une entrevue radio. L'autre, quelques années avant, c'était dans une salle de conférence de l'hôtel Le Capitole. Il était tout seul là avec Louis Valois, puis il parlait du remaster de l'album Leptade. Puis je sentais que le cadre de l'entrevue, il y a 3 semaines et demie, c'était quelque chose qui le tannait ou qui le dérangeait, alors que quand je me suis pointé là, pas de micro, puis que j'essayais juste de jaser, tu sais, comme un tripeux de musique, à essayer de jaser avec un autre tripeux de musique. Qu'est-ce qu'on a parlé une heure? T'sais, on a parlé une heure, puis à un moment donné, on regardait plus le temps, on regardait plus le booking, on faisait juste parler. Puis là, c'est là que tu vois, hey, on a bâti un monstre autour d'un gars qui est simple, 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 puis qui veut juste ça, de la simplicité. T'sais. parce que c'était facile de jaser avec ce gars-là. Mais avec le micro, avec l'ordi, avec la distance, peut-être avec les problèmes de santé aussi, c'était un petit peu plus ardu. Ouais. C'était pas un gars de mécanique. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'imagine.
Est-ce que dans le retour, tu vas nous refaire passer l'entrevue que tu as eue avec?
Je sais pas. J'ai le goût de demander aux auditeurs s'ils ont le goût de l'entendre, parce qu'évidemment, il y a une partie de cette entrevue-là qui parle d'un événement qui est passé.
Ouais.
Mais en même temps, de le réentendre, puis de réentendre son humour, il y a peut-être des gens qui ont le goût. C'est la dernière conversation média avec Serge Fiori. Fait que je pense que je vais lui demander à la gang à 14h, puis dépendamment des réponses que j'ai, ben je vais peut-être la rediffuser là, aux environs de 17h. Si ça vous tente, juste si ça vous tente.
C'est une super bonne idée. Hey, j'ai quelque chose qu'on pourrait proposer, toi puis moi, à mes patrons, à nos patrons en fait.
Oui.
Nicolas et Jean-François Leclerc.
Oui, je sais exactement où tu t'en vas.
On est des employés fidèles.
Ben oui.
Et je pense que quand on est des employés fidèles, ben on doit être récompensé.
Il y a deux grosses qualités qu'on a pour lesquelles on devrait au moins avoir des bonus. C'est le fait d'être présent.
Oui.
Puis c'est le fait de revenir après nos présences.
Exactement.
Tu sais, des fois, je suis là le lundi.
Oui.
Je suis là le mardi aussi.
Aussi, c'est
ouais.
Bon.
Des fois, je suis là une semaine. Puis l'autre semaine d'après, je reviens.
Ça fait combien de temps que t'es ici?
Ça va faire 4 ans.
Tu pourrais déjà avoir la prime que je oui. veux proposer oui. au patron.
La prime fidélité.
Oui, après 3 ans ou après 5 ans, il y a des primes fidélité qui sont versées par les patrons. Parce que je m'inspire.
Ben oui.
Le gouvernement du Québec est un exemple pour ce qui est de ses employés. Puis là, j'apprends qu'il y a des fonctionnaires qui, après 3 ans ou 5 ans de service, vont avoir droit à des bonus de fidélité. Et je m'attends à ce que nos employeurs embarquent là-dedans aussi.
Pourquoi noter la performance quand on peut juste noter la présence? Très bon point. Voyons.
Oui.
Ce serait plus facile, l'école, hein?
Puis là, on va essayer d'embarquer Véro avec nous autres. Sais-tu pourquoi?
Pourquoi?
Parce que Véro, c'est une professionnelle, c'est une patronne.
Oui.
Elle pourrait avoir des congés supplémentaires parce qu'elle est présente.
C'est vrai, t'as raison. Une prime congé.
Parce que les professionnels vont avoir, après 3 ans ou après 5 ans, des congés qu'ils vont pouvoir utiliser à leur escient.
Véro, t'es tellement là qu'on va te demander de pas te présenter au travail. Parce que t'es trop là. T'es tellement là que t'es trop là.
Oui!
Fait que cette journée-là, prends-la off. Sue notre bras. C'est pas que tu fais une bonne job, là. Je veux pas que tu le prennes comme un compliment, là.
Oui.
C'est juste un bonus. On te dit pas que tu fais une bonne job. On te donne de l'argent puis on te donne des congés.
Intéressant.
Moi, ça me plaît beaucoup.
Je te pose la question. Si nos employeurs y étaient endettés, là, on va dire en bon français, si nos employeurs étaient endettés que le Christ,
ouais.
comme le gouvernement actuel,
ouais, ouais.
est-ce que nos employeurs, les Leclerc, ils nous donneraient ces fameux bonus de fidélité-là?
Ben j'espère, parce que la fidélité, là, c'est quelque chose de très important.
Donc, ils nous donneraient de l'argent qu'ils n'ont pas, donc ils devraient emprunter pour nous donner des bonus.
Ben j'espère, c'est la moindre des choses. On se présente au travail. Y a-t-il une qualité plus importante que se présenter au travail? Quoi? La performance? Voyons donc, c'est dépassé.
Oui!
On est en 2025.
Exact.
Je me présente. Prends-moi comme je suis puis donne-moi mon bonus.
14 milliards de déficit. Le gouvernement trouve le moyen de récompenser ses employés qui sont fidèles et qui rentrent au boulot à chaque jour. 9,4 millions de dollars en primes versées aux employés. C'est des bonus qui varient entre 300 et 800 dollars de ce qu'on comprend. Et pour ce qui est des professionnels, ben là, c'est des congés supplémentaires. Des jours supplémentaires de congés parce que les gens sont fidèles. Attends un peu, là, tu rentres pour le gouvernement, Denis, c'est des bons salaires. Que ce soit pour le provincial, pour le fédéral. Je sais que pour le fédéral, des fois, les salaires sont un peu plus élevés, mais tu rentres pour le gouvernement, c'est des bons salaires. Par la suite, tu as un fonds de pension qui est franchement intéressant. Là. On va se le dire.
C'est le moins qu'on puisse
dire. Il y a de moins en moins de gens qui ont accès à des fonds de pension. Puis le gouvernement en offre toujours un. Donc, ça devrait servir de moyen de rétention pour ce qui est des employés. T'sais. Peut-être que certains de ces employeurs pourraient gagner plus cher dans le privé. T'sais, peut-être. Mais le fonds de pension est super important pour eux. J'ai des chums qui sont au fédéral. Puis la seule unique, ils travaillent en informatique. La seule unique raison pour laquelle ils ne sacquent pas leur camp là, c'est parce que le fonds de pension, parce qu'ils vont pouvoir, dans le cas de un, il va pouvoir prendre sa retraite à 58 ans. Tu es encore très jeune. L'autre, je pense que c'est 56 ans. T'es encore très jeune aussi. Ils ne veulent pas quitter cet emploi au fédéral parce qu'ils sont bien rémunérés, puis il y a un fonds de pension. Pourquoi on les récompense pour être fidèles?
Ben, moi, je cherche désespérément le nom du président de syndicat qui a réussi à négocier ça pour les employés parce que j'aimerais qu'il devienne mon agent pour les prochaines années. Parce que souvent, les bonus, je sais que je suis dans un monde révolu, mais ça va des fois avec la qualité du travail, des fois avec la performance, des fois avec les résultats. Mais lui, il a réussi à négocier à la présence. Et je trouve ça exceptionnel. T'es avec un gouvernement qui est surendetté. Tu réussis à négocier des hausses salariales appréciables, tu réussis à garder des fonds de pension que dans le reste de l'humanité, tu n'es pas capable de t'offrir, mais en plus, tu réussis à négocier des bonus à la présence.
Il y a des hôpitaux qui s'effondrent, oui. Il y a des toits d'école qui s'effondrent, des plafonds d'école qui s'effondrent, puis là, on donne des bonus aux gens parce qu'ils sont juste présents, ouais. Parce qu'ils sont là depuis 3 ans, qu'ils sont là par deux.
J'ai vu un contrat de la Ligue nationale de hockey là, qui c'est réglé de même. Là, tu joues 30 games, pas de points, puis t'as 500 000 de plus. T'en joues 40, on te donne 500 000 de plus.
Ouais.
Ben, la fonction publique, ça a l'air à marcher de même.
Puis, fonction publique, mais en fait, à partir du moment où t'es au gouvernement, t'es bien. Je sais pas si t'as vu Investissement Québec, ce qu'on nous annonce dans les dernières heures. Investissement Québec, là, a réalisé un 0,3% de rendement.
Ce qui est ridicule.
0,3% de rendement, c'est très, très, très ridicule. En bout de ligne, ça donne 15 millions, le rendement pour Investissement Québec. Problème étant que les employés, les boss du moins, se versent 12 millions en bonus.
C'est pas parce qu'ils sont bons, hein?
Ils ont rapporté 15, ils se versent 12 millions en bonus.
C'est drôle. On broierait si c'était pas drôle.
Je comprends qu'on verra jamais chez Investissement Québec, on verra jamais du 8, 9, 10 % de rendement. On le verra probablement jamais. Mais on a eu quand même des bonnes années, des années de 3, 4 % de rendement chez Investissement Québec. Puis avec ça, ben, il accompagne des entreprises, puis il aide des entreprises. On comprend ça. Mais de voir qu'ils se sont fait 15 millions, puis la PDG d'Investissement Québec donne à ses employés 12 millions, je trouve ça un peu hallucinant. Même elle va avoir droit à une prime de 121 000 $ pour 2024-2025. Là.
Belle prime, ça. Ce qui est triste là-dedans, c'est que, indépendamment de le gouvernement va-tu bien, les ministères vont-tu bien, la fonction publique fait-elle sa job, ben c'est des affaires qu'on continue de donner. Il n'y aura jamais de recul. Pendant qu'on demande des compressions qui n'ont même pas eu de l'air d'être vérifiés ou concertés au niveau du ministère de l'Éducation, au niveau des écoles. On le sait, on a de la misère à rénover des hôpitaux qui tombent en ruine. Tous les projets de transport sont sur pause présentement,
oui.
Parce qu'on n'est plus capable de mettre une scène nulle part. Puis pendant ce temps-là, des affaires de même, c'est comme des intouchables. C'est comme du non négociable. Fait que c'est tout le temps sur notre dos. Puis tout ce qu'on paye maintenant, ben c'est pour garder les bonus de présence puis ce genre de choses-là que tu peux faire quand tout va bien. Mais là, tout va pas bien. Pendant que tout s'écroule autour de nous, je suis bien content, moi, qu'il y ait le bonus de présence.
Je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire-là, mais les employés d'Hydro-Québec, on parlait tantôt avec la porte-parole Emiliane Bacon, les employés d'Hydro-Québec, les monteurs de ligne qui ont refusé de rentrer à job après l'orage. Eux autres, là, c'était une journée de congé pour eux autres. Là. Hey, fuck you, on rentre pas. On est en négociation. On n'a pas de convention de signer depuis plusieurs mois. Puis là, il y a une panne. Il y a des pannes majeures à la grandeur. On rentre pas. Fuck you. C'est le tribunal administratif du travail qui est embarqué dans la danse pour dire aux employés, aux 1500 employés, là, vous arrêtez de niaiser, puis vous retournez au travail pour brancher les Québécois.
Là, il y en a qui n'ont juste pas répondu au téléphone. Est-ce que c'est une action concernée? Oui, concertée, ça a l'air que oui. Parce que d'habitude, ils sont capables, c'est ça qu'ils disaient tantôt, ils sont capables d'aller chercher un genre de 50 % de taux de réponse positive. Là, ils ont eu de la misère à se rendre à 10 % puis il a fallu faire appel à de la sous-traitance. Puis ça, ben à qui ça coûte cher, tu penses?
C'est à nous autres.
Ah, c'est nous autres. Ben oui, c'est encore nous autres.
À nous autres. Mais on dit que les conventions collectives de la plupart des syndiqués d'Hydro-Québec sont échues depuis le 31 décembre. Je peux comprendre qu'il y a du mécontentement, mais gang, quand on est dans la marde puis vous nous aidez, c'est là où vous mettez de la pression sur le gouvernement T'sais, merci beaucoup de le faire. T'sais, vous rentrez quand il y a des tempêtes de neige, quand il y a du gros froid, quand il y a des orages, vous nous sortez du trouble. Vous allez avoir la population de votre bord.
Oui.
Pas quand il arrive des intempéries comme ça, puis tout le monde est en crise. En crise, j'ai plus d'électricité, je vais perdre mon épicerie, je vais perdre mon congélateur, j'ai pas d'air climatisé. Ma mère a 75 ans, elle est dans son logement au troisième étage. Elle va crever de chaleur.
Il y a des jobs où tu peux pas te permettre ça.
Police, ambulancier, pompier.
Ouais, moi, je suis en moyen de pression, je vais pas au feu.
Quoi?
Non, tu peux pas faire ça. C'est un service essentiel. Je pense qu'en cas de tempête majeure puis de dizaines de milliers de clients qui sont privés d'électricité, on est en cas de force majeure.
Oui.
C'est pas là que tu négocies.
Non.
Tu peux pas.
Non.
Puis le tribunal fait bien de les rappeler à l'ordre parce que nous autres, on est un peu dans l'autre sens. T'sais, on se dit, les gens du transport en commun, du RTC, peuvent pas faire une grève pendant le festival d'été parce que ça devrait être considéré comme un bien essentiel. Pour une raison qui m'échappe encore et toujours, ça ne l'est pas. Mais il faut pas partir dans l'autre sens, là où tout le monde peut partir sa grève n'importe quand. Puis toujours pour faire de la pression sur des gens qui sont peut-être un petit peu écœurés d'en avoir au total de tout parce que c'est tout le temps nous autres, là.
Denis Gravel! Mes sympathies. Je sais que Serge Fiori, pour toi, c'était quelqu'un d'important. Tu l'as eu en entrevue il y a de ça quelques semaines. 418-971-1021, si vous voulez que Denis repasse l'entrevue de Serge Fiori. Probablement sa dernière, là, c'est pas confirmé, mais probablement sa dernière entrevue à vie. C'est drôle à dire. Vous l'avez eu dans le retour sur les ondes de boulevard. Donc, si vous voulez que Denis repasse ça tantôt vers 17h, 418-971-1021 pour le mentionner. Vous allez faire une différence, les amis, si vous textez.
À tantôt.
Midi 26, à tantôt. Bye-bye.